vendredi 8 mars 2019 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Avec vous pour les 90 prochaines minutes, Mathieu Tessier et François Brodeur, qui allons vous livrer donc une équipe donc par la Journée internationale de la femme, la Journée internationale du droit des femmes, la Journée internationale des femmes. Il y a différentes appellations et tout un litige dans lequel je n'entends pas m'immiscer. Mais Mathieu, outre ceci, qu'est-ce que le 8 mars nous a apporté au cours de l'histoire?
Je remonte premièrement en 1360, puisqu'il s'agit du moment, le 8 mars 1360, signature du traité donc de Paris entre la France, menée par Jean le Bon, et Édouard III de l'Angleterre pour mettre fin à la guerre de 100 ans, provisoirement, puisque la guerre reprendra 9 ans plus tard, donc la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453.
Oui, assez étrangement, la guerre de 100 ans a duré 110, dont les gens ne sont pas conscients.
Ça, c'est de la poésie. Mm-hmm. 1910, pour la première fois, des empreintes digitales servent devant un tribunal à New York. Un cambrioleur sera condamné. En 1917, à Saint-Pétersbourg et ailleurs en Russie, des femmes défilent pour du pain et pour le retour des maris partis à la Grande Guerre. Le mouvement va s'amplifier. Révolution de février et le tsar abdiquera le 15 mars. 1950, début de la production du microbus emblématique de Volkswagen, le fameux type 2 ou transporteur que l'on connaît ici sous le nom de Westphalia. 1957, la Cour suprême conclut que la loi dite du cadenas adoptée en 1937 sous Maurice Duplessis, soi-disant pour contrer la propagande communiste, outrepasse la juridiction de Québec.
Oui, c'était une loi qui autorisait jadis la police provinciale, comme on l'appelait, à barricader, à fermer carrément les locaux où se tenaient des réunions subversives.
Merci François. 1976, 4 ouvriers sont tués et autant sont blessés dans la chute d'une poutre de béton au chantier du Stade olympique à Montréal. 1988, le premier ministre Robert Bourassa annonce le début des travaux de la deuxième phase de la baie James au coût de 7,5 milliards de dollars. Le projet qui doit comprendre la construction de 3 barrages procurera 40 000 emplois par année sur une période de 7 ans. La Chine impose la loi martiale au Tibet. Je faisais de la lecture. En 1989, trois jours d'émeute, et en 2002, un astéroïde de 50 mètres de diamètre passe à 463 000 km sans que personne ne s'en rende compte. Dans les observatoires, ce n'est que le 12 mars que cette masse est aperçue. Et en comparaison, il faut savoir que la Lune était, elle, à 385 000 de la Terre. Et pour ce qui est des naissances, il y en a plusieurs. Évidemment, plus on remonte dans le temps, plus ce ne sont que des anniversaires d'hommes. Mais Charlotte Whitton, qui est une politicienne canadienne, est née un 8 mars 1896. Susan Clark, qui est une actrice en 1940, Carol Bayer-Sager, qui est une compositrice, est née en 1947, Laura Oswald, actrice allemande, qui est née en 1982, et je pourrais continuer comme ça. Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté deux. Nicole Louvier, auteur, compositeur et interprète, je devrais dire autrice peut-être, compositeur, interprète française, décédée en 2003, et Simin Daneshvar, romancière iranienne, décidément aujourd'hui, j'essaie de me presser, 1921 à 2012.
Merci Mathieu. Allez, on commence tout de suite avec la météo. Ce matin, je suis arrivé avec la station en nourrissant une vague animosité envers les rongeurs en général et envers la marmotte en particulier. Si je la coince, elle ne verra plus jamais son ombre, je peux vous le garantir. Ceci dit, le Journal de Montréal avait de bonnes nouvelles à ce chapitre. Un répit météo bien mérité à venir. Les Québécois n'ont pas fini d'en découdre avec l'hiver, mais ils pourront bientôt voir la lumière au bout du tunnel grâce à plusieurs redoux en mars qui devraient être suivis d'un printemps chaud. On va avoir droit à une pause, prévoit Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada. Dès cette fin de semaine, la grande région de Montréal connaîtra un court redout avec des températures au-dessus de zéro dès dimanche, explique-t-il. Cela devrait être accompagné de précipitations qui vont commencer sous forme de neige dimanche matin pour se changer en averse de pluie en après-midi. Pendant ce temps, à Québec, une autre tempête de neige s'abattra sur la ville. De 10 à 15 cm sont attendus sur la capitale nationale à compter de dimanche après-midi, mais ça pourrait être plus, indique Bruno Marquis, aussi météorologue pour Environnement Canada. Les Montréalais peuvent donc s'estimer heureux, mais la région métropolitaine n'est pas à l'abri d'une autre tempête d'ici la fin du mois de mars. Surtout que plusieurs transitions chaud-froid qui y sont favorables sont attendues dans les prochaines semaines, explique M. Parent. Allez, je vous l'ai dit, l'actualité de ce jour était largement dominée par le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes ou de la femme ou des femmes. Je vous dis, je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. On aurait pu faire toute l'émission sur ce thème-là. L'actualité est riche dans le domaine et on a privilégié ce type de nouvelles, évidemment, à la sélection. Isabelle Dubé, La Presse. Revenu toujours moins de femmes au sommet. Une vaste étude de Statistique Canada révèle sans surprise que les hommes continuent d'avoir une rémunération plus élevée que les femmes. L'équipe de chercheurs a analysé la rémunération annuelle et non le taux horaire des Canadiens sur une période de 40 ans à partir des déclarations de revenus. Même si les femmes ont fait des gains entre 1978 et à 2015, elles restent sous-représentées dans le bassin des Canadiens ayant des revenus supérieurs. En 2015, il n'y avait que 12 % des femmes parmi le 0,1 % des plus hauts salariés du pays. Il s'agit de revenus annuels totalisant 761 000 $ et plus. La majorité des femmes se retrouvent dans le bassin de revenus les plus bas, qui représente 90 % des Canadiens. En 1980, le salaire moyen des femmes faisait partie des 90 % des salariés canadiens, faisant partie où des 90 % des salariés canadiens étaient de 29 900 $ comparativement à 47 000 $ pour les hommes, un écart de 40 %. En 2015, l'écart s'est rétréci à 14 % avec une moyenne de revenus annuels de 40 600 $ pour les femmes contre 48 600 pour les hommes. Autrefois, l'écart des revenus entre les hommes et les femmes s'expliquait par le niveau de scolarité plus faible des femmes, leur manque d'expérience sur le marché du travail et l'ancienneté. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes ont leur propre carrière et leur niveau de scolarité a augmenté de façon substantielle, explique l'économiste de Statistique Canada René Morissette en entrevue avec La Presse. L'étude visait à expliquer l'écart qui persiste. Isabelle Ducas et Manon Louvet se sont aussi intéressés à l'actualité du 8 mars. Un 8 mars sous le signe de dièse, moi aussi. J'ai décidé que j'abandonnais le mot hashtag. Voilà, alors dièse, moi aussi. C'est un hasard si Gilbert Rozon, accusé de viol, revient en cour aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des femmes. Mais ce n'est pas une coïncidence si deux manifestations en appui aux droits des femmes se tiennent devant le Palais de justice de Montréal. Le fondateur de Juste pour rire, accusé formellement dans la foulée de la vague MeToo, est devenu un symbole de ces puissants que la déferlante a réussi à faire tomber, souligne la Fédération des femmes du Québec, pour expliquer le choix du lieu de son rassemblement à partir de 7h45 ce matin. Le mouvement de dénonciation des agressions sexuelles qui a encouragé bien des femmes à porter plainte contre leur agresseur commence à faire bouger les choses. On veut profiter du momentum pour demander des gestes concrets. Ça prend des résultats et nous voulons participer aux solutions, dit la porte-parole du collectif 8 mars et présidente de la FFQ, Gabrielle Bouchard. L'ouverture de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, à se pencher sur des façons d'améliorer le traitement des cas d'agression sexuelle par les tribunaux est un pas dans la bonne direction. Mais le combat pour que la justice soit faite est encore loin d'être gagné pour les nombreuses femmes qui subissent des violences sexuelles, note Mme Bouchard. Pour faire suite aux souhaits de la ministre Lebel, encouragée par les députés des autres partis Véronique Yvon, Hélène David et Christine Labrie, un colloque sur la justice à l'ère du « moi aussi » se tiendra début mai. Il sera précédé d'une consultation publique sur les meilleures façons de soutenir les femmes, ont annoncé l'aire des centres de femmes du Québec, le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC, et Québec contre les violences sexuelles. Améliorer les droits des femmes, ça passe aussi par une amélioration de leurs conditions financières, souligne Gabrielle Bouchard. C'est pourquoi l'augmentation du salaire minimum à 15 $, une loi cadre sur la conciliation travail-famille et un réinvestissement dans les services publics font également partie des revendications des groupes militants. On demande au gouvernement de cesser de comptabiliser le montant des pensions alimentaires pour enfants dans les revenus, ce qui réduit les prestations d'aide sociale, les prêts et bourses ou l'aide au logement que les bénéficiaires peuvent recevoir. Les représentantes du collectif du 8 mars discuteront de ces questions cet après-midi avec la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charest. Hier, c'était aussi les grandes explications de Justin Trudeau. C'était à son tour de s'exprimer sur l'affaire de l'éventuelle ingérence du bureau du premier ministre dans le dossier judiciaire de SNC-Lavalin et les pressions mises sur Jody Wilson-Raybould. Alexandre Sirois revient sur, non pas son témoignage, mais sa déclaration, plausible mais embarrassant. La crise n'est assurément pas terminée, mais la sortie publique de Justin Trudeau hier, complémentaire à celle de son ancien bras droit Gérald Botts la veille, a démontré que la réalité est plus complexe que ce que certains ont pu insinuer jusqu'ici. De fait, ceux qui ont respiré par le nez, contrairement à ceux qui ont grimpé dans les rideaux, n'ont pas eu tort. Le Parti conservateur a réclamé la tête du premier ministre. Certains chroniqueurs au Canada anglais ont exigé de toute urgence la dissolution du Parlement. Tout ça semble désormais excessif. Ce qu'a dit le premier ministre pour contrecarrer les attaques de sa ministre, plaidant une différence de perspective, est plausible, même si ses remarques étaient moins documentées et plus vagues que celles de Jody Wilson-Raybould lors de son témoignage remarqué. Il a reconnu lui avoir demandé en septembre dernier de continuer d'évaluer si SNC-Lavalin pouvait bénéficier d'un accord de poursuite suspendu. Il l'aurait toutefois assuré que c'était à elle de prendre cette décision. Il n'y a pas eu à ce moment de fin de non-recevoir de Jody Wilson-Raybould, a-t-il affirmé. Elle aurait plutôt dit qu'elle allait faire le suivi, notamment avec le greffier du conseil privé. Tout ça expliquerait, selon le premier ministre, pourquoi on a continué de talonner la ministre à ce sujet pendant plusieurs semaines. On considérait que Mme Wilson-Raybould était toujours ouverte à considérer de nouveaux facteurs dans cette décision, a-t-il dit. Les discussions ultérieures avec elle étaient d'autant plus justifiées qu'on se préoccupait du sort de quelques 9 000 employés de l'entreprise au Canada, expliquait Justin Trudeau. Le contraire, bien franchement, eût été inquiétant. Avec ces déclarations, le premier ministre a donc remis en partie le couvercle sur la marmite. Cela dit, sa sortie publique a aussi mis au jour certaines faiblesses, par-dessus tout sur le plan du leadership. Visiblement, pour ce qui est des capacités organisationnelles et de la communication, Justin Trudeau et son entourage ont failli à la tâche. C'est embarrassant. C'est ce qui semble avoir été la source de l'érosion de confiance entre son bureau et la ministre, et le fait qu'il ne s'en ait jamais vraiment rendu compte est préoccupant. L'un des éléments centraux de mon leadership est de cultiver un environnement dans lequel mes ministres, le caucus et les employés sont à l'aise de venir me voir quand ils ont des préoccupations, a-t-il précisé. Visiblement, ce n'est pas un succès. En chronique, Rima El-Khoury revient sur le fameux bulletin. On va vous rappeler que la semaine dernière, le Conseil supérieur de l'éducation recommandait d'abolir les moyennes de groupe, les bulletins chiffrés aux primaires, etc. Au-delà des notes, « Je sais que tout ce qui t'intéresse, c'est la moyenne du groupe », a dit Fiston en me montrant son bulletin. Ça sonnait comme un reproche. C'est tout juste s'il ne m'a pas cité un extrait du récent rapport du Conseil supérieur de l'éducation qui milite pour l'abolition des moyennes de groupe. Même si je répète à mes enfants que ce qui importe est de faire de son mieux, il semble que mon regard me trahit parfois, comme s'il disait à mon insu « ce mieux a intérêt à être meilleur que celui des autres ». Mon jupon de fille d'immigrant dépasse. Chez nous, les notes au bulletin et l'écart à la moyenne du groupe avaient quelque chose de sacré. C'en était presque maladif. Ma mère, elle-même enseignante, après une très brève période où elle a testé l'école alternative sans notes et sans examen avec mon grand frère, a fait un revirement spectaculaire au moment de mon entrée à l'école. Elle est devenue une « tiger mom », avant l'heure, ne jurant plus que par la performance scolaire. Le genre à s'inquiéter si nos notes glissaient sous la honteuse barre des 90%, seuil sous lequel nous allions bien sûr rater notre vie. Le genre à s'inquiéter tout autant si nos notes semblaient trop bonnes. Elle a insisté pour que je saute ma quatrième année, craignant que je me complaise à tout jamais dans la facilité. Bref, il n'y en avait pas de facile. C'était une autre époque, et contrairement à ce qu'on pense, cela n'avait pas du bon. C'était une époque où on classait les élèves sans trop se soucier de l'impact que ce classement avait sur eux. Certains se voyaient coller l'étiquette de « mésadaptés socio-affectifs ». Il y avait des groupes de douance et des groupes allégés. C'était le programme qui était allégé, non les élèves, mais quand même. Pour les élèves ainsi classés, ce n'était sans doute pas la meilleure façon de les inciter à se dépasser.
Mandeville, possible, impossible.
Et on passe aux pages du devoir, en commençant par l'éditorial où finalement l'actualité concernant Justin Trudeau rejoint celle des femmes. Marie-Andrée Chouinard le signe. L'an dernier, à pareille date, il n'y en avait que pour Justin Trudeau, le chantre du féminisme, le héros de la défense des droits des femmes, l'apôtre de la parité dans son conseil des ministres. Dans la foulée d'une année marquée par les accomplissements canons du mouvement « Moi aussi », notre premier ministre à la chemise rose défiait toute comparaison avec le barbe bleue de la Maison-Blanche Donald Trump traînant dans son sillage 19 allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit des femmes. Les crises politiques dont on sait maintenant qu'elles peuvent bouleverser de manière assez radicale le cours des choses causent-elles non seulement l'émoi mais aussi l'amnésie? A-t-on déjà oublié la loi sur l'équité salariale, le ministère des Femmes et de l'égalité des genres et les projets de loi sur la réduction de la pauvreté, toutes mesures trudeauistes dont un des objectifs est de redorer la situation des femmes? Pour les partis d'opposition qui se déchaînent ces jours-ci sur l'antiféminisme de M. Trudeau, ces actions n'ont plus de valeur. La ferveur de l'opportunisme qui caractérise une période préélectorale ne justifie pas les amalgames douteux comme ceux qui ont été faits dernièrement. Par exemple, oser la comparaison entre l'accueil que fit Justin Trudeau de la version des faits de l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould et le mouvement « Moi aussi » de dénonciation des agressions sexuelles. Les départs fracassants de deux ministres poids lourds de l'équipe libérale, Mme Wilson-Raybould d'abord, Jane Philpott ensuite, auront donc porté la sphère politico-journalistique à plus d'une analyse sur le thème « Les femmes en politique, comment font-elles autrement ?» Mais à force de vouloir tout décortiquer par la lorgnette du genre « femme de principe, femme d'intégrité, femme solidaire », femmes au-dessus de la partisanerie, on a fini par instrumentaliser ces femmes, jouant sur la ligne sombre du mépris et de la condescendance. Pas du joli. Disons les choses simplement, sans étiquette de genre. Deux ministres, femmes en l'occurrence, ont été emportées dans ce qu'on appelle platement et simplement une crise politique. Elles ont réagi comme des hommes l'auraient fait aussi, pareillement ou autrement, sans que pour cela, parions-le, on se fût mis à décliner leurs moindres faits et gestes en fonction de leur sexe. La lutte pour l'égalité, c'est aussi cela. Cesser de braquer les projecteurs sur les politiciennes en associant ce qu'elles ont fait, dit ou décidé au seul fait qu'elles sont des femmes. Le résultat peut vite devenir contraire à l'intention. Croyant s'ériger en fervent défenseur des droits des femmes, il s'en trouve plusieurs pour sombrer tête première dans une arrogance bien malvenue. Bien qu'il y ait des limites à tout vouloir expliquer par le genre, cela ne dispense pas de tendre encore davantage à l'égalité, notamment en luttant contre la sous-représentation des femmes en politique. L'occasion est belle, en vue de l'élection du 21 octobre 2019, de tendre vers la zone paritaire lors de la présentation des candidatures par les principaux partis politiques. En sport aussi, il y a le 8 mars qui est rejailli, mais pas de la façon positive. Stéphanie Marin, la presse canadienne, une enquête sera lancée sur les sévices subis par les athlètes. Après des cas hautement médiatisés d'athlètes victimes d'agressions et de harcèlement, une étude sera réalisée sur toutes les formes de maltraitance vécues par les sportifs au Canada. La dernière enquête de ce genre a eu lieu il y a plus de 20 ans, dit Athlète CAN, l'association des athlètes des équipes nationales canadiennes, qui sera à la barre du projet. L'étude sera menée en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Toronto et reçoit l'appui financier du gouvernement fédéral. Elle est conçue de façon à ce que les athlètes aient un rôle clé dans la formulation, fait valoir Athlète CAN. Elle va se pencher sur les sévices sexuels, émotionnels et physiques dont sont victimes les athlètes, ainsi que sur les cas de négligence, de harcèlement, d'intimidation, d'exploitation et de discrimination. Parmi les cas qui ont retenu l'attention se trouve celui de Bertrand Charest. L'ex-entraîneur de l'équipe canadienne junior féminine de ski alpin a été reconnu coupable en 2017 de 37 chefs d'accusation pour des crimes de nature sexuelle. Il a écopé de 12 ans de prison. L'homme en appelle toutefois de ses verdicts de culpabilité et de la peine. Ce n'est pas le seul cas. Parmi d'autres, l'ex-entraîneur sportif Michel Arsenault a été arrêté l'an dernier pour des agressions sexuelles et des voies de fait sur des gymnastes. Sheldon Kennedy, un ancien joueur de hockey professionnel dans la Ligue nationale, a été pendant de nombreuses années agressé sexuellement par son entraîneur Graham James. Puis, très récemment, une enquête de Radio-Canada CBC a rapporté que 340 entraîneurs de sport amateurs ont été accusés d'un délit sexuel au cours des 20 dernières années au Canada. Un changement culturel systémique est nécessaire, insiste le gouvernement canadien dans un communiqué, car les athlètes canadiens ont le droit de s'adonner à leur sport dans un environnement exempt d'abus, de discrimination et de harcèlement. L'ex-athlète olympique Allison Forsythe, l'une des victimes de Bertrand Charest, apporte son appui à cette idée. « En tant que victime d'abus et de harcèlement, je ne peux vous dire à quel point ce travail est important », déclare-t-elle dans un message vidéo. Elle dirige le groupe de travail sur la sécurité dans le sport d'athlètes CAN, composé d'athlètes olympiques et paralympiques. Dans leur poursuite au civil contre Canada Alpin, l'employeur de Bertrand Charest Trois de ses victimes allèguent justement que la fédération sportive n'a rien fait pour les protéger et a préféré fermer les yeux pour préserver son image et conserver les commanditaires. Elles font valoir dans la procédure que l'organisation n'a même pas pris les mesures les plus élémentaires pour qu'elle ne subisse pas ces sévices. Nouvelle inquiétante dans le monde des médias au Québec, Philippe Papineau nous en parle, démission en bloc au journal Métro. Semaine sombre au journal Métro. Dans les derniers jours, le quotidien gratuit a vu 5 employés de la rédaction, soit environ le tiers de la salle de nouvelles, et une responsable des ventes remettre leur démission. Des lacunes dans la gestion ainsi que le déménagement de l'entreprise dans des bureaux de l'arrondissement excentré de Saint-Laurent auront précipité leur décision selon les informations du Devoir. Andrew Mullet, le vice-président de la maison mère Métro Média, a confirmé ces 6 départs par voie de communiqué, mais il dit refuser de discuter plus amplement du détail de ces départs pour des raisons de confidentialité. Joint au téléphone, M. Mullet n'a pas voulu répondre aux questions du Devoir. Parmi les employés ayant annoncé leur départ, on compte les 2 directeurs de l'information, Marie-Ève Schaffer et Baptiste Barbe. Métro perdra aussi Jessica Dusty, responsable des sections thématiques, ainsi que les pupitreurs Camille Lopez et Alexis Boulian. Quelques-uns de ces employés d'expérience ont confirmé leur départ jeudi matin sur les réseaux sociaux. M. Barbe a voulu souligner la passion de son équipe, l'humanisme des lecteurs et le respect gagné au sein des médias du Québec, des qualités qui ont manqué au-dessus de nous ces dernières années, déplore-t-il. C'est déchirant, remettre sa démission. Partir volontairement d'un endroit où tu te voyais travailler longtemps, 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 a exprimé Camille Lopez. Mme Schaffer, qui a travaillé 10 ans au métro, a précisé avoir accroché son calepin parce que métro n'était plus vraiment métro, parce que métro ne me permettait plus de m'accomplir comme avant. Je m'en veux, j'en veux à l'horloge de ne pas avoir le temps de vous lire la chronique de José Blanchette qui s'intitule « Femmes au sommet ». Je vous invite à la parcourir, c'est délicieux comme à l'habitude. Dernière petite nouvelle en économie, Andy Blatchford de la presse canadienne nous rapporte que les données de croissance ont surpris la Banque du Canada. Un rapport mitigé sur la croissance a surpris la Banque du Canada, alimenté les doutes sur de futures hausses des taux d'intérêt et amené la Banque centrale à prévenir les Canadiens que le marasme actuel pourrait se révéler plus persistant que prévu, a indiqué l'une des principales responsables de la Banque.
Verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desverde mar de lágrimas. Verde cabo de azul, verde, verde de mansa, mais verde que milho verde. Verde, verde, manhã. Verde, vida, verde, sonho. Cabo Verde que tá prendendo. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha arma. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha arma. Cabo de azul, Cabo Verde de Inhação, Mindel de Inhajamor, São Vicente aguardou.
verde cabutinhas hoje. Mindeldinhas maior. Cremo ver na boa verde. E viver na minhas canção. Cremo ver na boa verde. E viver na minhas canção. Verde vida, verde sonho. Cabo verde que tá aprendendo. Tá voltar pra boa terra verde. E verde tá ser minha alma. Tá voltar pra boa terra verde. E verde tá ser minha alma. Tá voltar pra boa terra verde. E ver da senha alma.
Sans doute ou peut-être pas connu, reconnu, c'était Cesaria Evora, Verde Cabo Dinhas Oduros. Quelque chose comme ça.
On passe aux pages du Journal de Montréal pour souligner un hasard quand même assez étrange parce qu'on ne sait pas si elle en particulier est une bonne chose pour les droits des femmes ou une mauvaise chose. Je vous parle d'un personnage qui a aujourd'hui 60 ans, la poupée Barbie. En fait, elle va les avoir demain. Donc, Barbie est née le 9 mars. Et le 9 mars 1959, pour être précis, Barbie donc a 60 ans et au cours de ces 60 années, elle a représenté le personnage archi stéréotypé de la femme classique. On a essayé de lui donner un aura plus moderne, on a changé son corps. La question est-ce qu'on s'identifie encore à Barbie de nos jours et est-ce qu'elle fait plus de tort à la situation des femmes qu'elle fait de bien. Si ça peut vous rassurer, mesdames, sachez que je ne connais aucun homme qui s'identifie à Ken. Québec honore 8 modèles féminins qui ont marqué notre histoire. Ça nous vient de QMI. Le gouvernement profitera de la Journée internationale des femmes ce vendredi pour mettre de l'avant et reconnaître le rôle historique de 8 pionnières du Québec. Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et Isabelle Charest, ministre responsable de la condition féminine, ont sélectionné ces 8 femmes en fonction de l'impact qu'elles ont eu dans l'amélioration des droits collectifs des femmes, tant sur le plan politique, juridique, médical qu'éducatif. Idola Saint-Jean, figure importante de la lutte pour l'obtention du droit de vote des femmes. Irma Levasseur, première Canadienne-Française à exercer la médecine au Québec, et Thérèse Casgrain, la plus connue des suffragettes québécoises, sont du nombre des femmes honorées. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, pionnière du mouvement féministe, mère Sainte-Anne-Marie, qui a joué un rôle clé dans la lutte pour le droit à l'instruction, et Maud Abbott, première femme à avoir enseigné la médecine au Québec, voient aussi leur contribution soulignée. Laure Gaudreau, pionnière du syndicalisme dans le monde de l'éducation, et Elisabeth Carmichael Monk, l'une des premières femmes admises au barreau du Québec, complètent la liste. Ces femmes accomplies, audacieuses et persévérantes incarnent de véritables modèles pour notre nation, en particulier pour la jeunesse québécoise. Elles étaient inspirées et passionnées à leur époque, elles demeurent inspirantes et passionnantes aujourd'hui, a expliqué la ministre Nathalie Roy par voie de communiqué. Elles recevront donc tout officiellement le titre de personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Une période de 25 ans doit s'être écoulée à la suite du décès de la personne honorée avant qu'on puisse la désigner comme personnage historique. Allez, à l'instant, je vous parlais du féminisme qui rejoignait l'affaire Wilson-Raybould et Justin Trudeau. Eh bien, maintenant, je fais encore un amalgame, la preuve que tout est dans tout. Cette fois-ci, Passepartout rejoint la maternelle 4 ans. Je vous explique comment. Plutôt, Véronique Morin-Lefebvre de l'agence QMI. Passepartout aurait été créé pour remplacer les maternelles 4 ans. En entrevue à l'émission « Là-haut sur la colline » à Cube Radio, une ancienne fonctionnaire du ministère de l'Éducation, Sylvie Malaison, raconte que Passepartout avait été créé avec l'intention de remplacer un projet de réseau de maternelle 4 ans. En effet, le rapport parent des années 60 recommandait la création d'un réseau de maternelle pour les enfants de 4 ans. Selon Mme Malaison, quelques années plus tard, suite à l'opération Renouveau, le ministère de l'Éducation avait déterminé que les coûts d'un tel réseau étaient trop onéreux et avait plutôt choisi de miser sur les émissions de télévision éducative pour les tout-petits. À l'analyse des coûts, il se rend compte que ça va coûter beaucoup, beaucoup trop cher. Alors donc, il va séparer la poire en deux, créer un certain nombre de maternelles, notamment dans les milieux défavorisés, et il dit « on va produire une série télévisée qui va rejoindre l'ensemble des parents de Québec », raconte-t-elle. Passepartout aurait alors été créé, inspiré de l'émission américaine « Sesame Street ». L'école a programmes particuliers. Vous savez, ces programmes sport-études, sport-art, études internationales. Bon, on pensait que c'était surtout secondaire. Eh bien, sachez qu'au primaire, ça perce de plus en plus ce dont nous parle Daphné Dion-Vien. Engouement pour l'école à la carte dès le primaire. Déjà très prisés au secondaire, les programmes particuliers sont de plus en plus populaires dans les écoles primaires québécoises. Depuis plus de 10 ans, le nombre d'élèves qui sont inscrits a bondi de 50 % alors que le coût de ces programmes peut grimper jusqu'à 8 000 $. Selon des chiffres obtenus auprès du ministère de l'Éducation, 18 564 élèves du primaire sont désormais inscrits dans ces programmes comparés à 12 808 il y a 12 ans. La proportion reste faible à 3,6 %, mais ces données sont non exhaustives puisque les écoles peuvent enrichir leurs programmes sans en informer Québec, précise-t-on. Les programmes particuliers sont des concentrations ou profils qui peuvent être axés sur les sports, les arts ou les sciences, par exemple, permettant aux élèves de consacrer un plus grand nombre d'heures à ces disciplines que le programme régulier le permet. Ils sont de plus en plus nombreux dans le réseau public pour répondre aux besoins des élèves et des parents, indique-t-on du côté des commissions scolaires. Certains programmes sont gratuits, plusieurs sont coûteux. À l'école primaire des Berges, à Québec, le prix des concentrations déterminées par les clubs sportifs ou artistiques affiliés varie de quelques centaines de dollars à 8 000 $ pour le tennis. La centaine d'élèves inscrits dans ces concentrations s'entraînent à l'extérieur de l'école en après-midi, 4 après-midi par semaine. Les élèves qui sont admis dans ces programmes doivent avoir une moyenne générale d'au moins 80 %. La demande pour ces concentrations est forte et en forte croissance, indique le directeur Kino Métivier, qui y voit une façon de démocratiser le sport-études d'élite autrefois réservé à l'école privée. Des programmes semblables existent un peu partout au Québec, à Trois-Rivières. L'école primaire, l'Académie sportive, offre des programmes de sport-études dont la facture peut grimper jusqu'à 3 500. C'est à se demander si dans quelques années, on ne va pas se sentir coupable d'envoyer nos enfants au programme régulier. En éditorial, José Legault revient sur la déclaration de Justin Trudeau. Justin Trudeau prend enfin la pleine mesure de la crise politique dans laquelle il s'est lui-même embourbé. Après des semaines de déclarations contradictoires dans l'affaire SNC-Lavalin, le premier ministre s'est adressé hier aux Canadiens. À l'instar de son ex-conseiller principal, Gérald Botts, M. Trudeau répète qu'aucune pression inappropriée n'a été exercée sur son ex-procureur général, Jody Wilson-Raybould, pour la convaincre d'éviter un procès criminel à SNC-Lavalin par une entente de réparation. Il s'est dit respectueux de son ex-ministre. Pas le choix. Grâce à la gestion lamentable de la crise par M. Trudeau, au Canada anglais, Mme Wilson-Raybould est élevée au rang de martyr infaillible. Il n'en a pas moins taillé en pièces sa version. À leur rencontre du 17 septembre, il jure qu'elle a accepté de revisiter sa décision initiale de refuser toute entente de réparation à SNC-Lavalin. Mme Wilson-Raybould a juré le contraire. Cet élément est majeur. Il nous dit qu'un seul des deux dit la vérité. La version de M. Trudeau est la plus crédible. À preuve, dans les semaines suivantes, Mme Wilson-Raybould a accepté de discuter du dossier SNC-Lavalin. Si elle y avait vu une ingérence politique grave, elle aurait refusé de le faire. Point. M. Trudeau a aussi rappelé aux électeurs que son style de leadership n'est pas celui de son père, Pierre-Éliott Trudeau, nettement plus autoritaire. Sûrement l'euphémisme de l'année. Il a reconnu avoir tiré de sérieuses leçons de la crise, y compris la commande d'un avis d'expert sur une possible séparation du poste de procureur général de celui de ministre de la Justice. Si le premier ne siégeait plus au cabinet, son indépendance du pouvoir politique serait bétonnée. Voilà pour les faits. Or, le problème de M. Trudeau est que cette saga, hors Québec, n'a plus rien de rationnel. En majeure partie, les médias et l'opinion publique du Canada anglais le crucifient tout en béatifiant Mme Wilson-Raybould, d'où leur réaction dominante à la déclaration de M. Trudeau, le blâmant maintenant de ne pas s'être excusé formellement. Un vent d'irrationalité souffle au Canada anglais pour ce qui semble avoir été des discussions comme en ont tous les gouvernements. L'indépendance politique du procureur général étant imparfaite, la chose est inévitable. On reproche même à M. Trudeau de s'être préoccupé à la fois des emplois chez SNC-Lavalin et de considérations plus partisanes. Là aussi, c'est dans la nature de la politique. Les jobs et les élections, ça va ensemble comme les bagels et le saumon fumé. Maintenant, la question qui tue. Ce vent d'illogisme, porté aussi par le préjugé classique « Québec égale corruption », soufflera-t-il au Canada anglais jusqu'au scrutin du 21 octobre? Pour Justin Trudeau, c'est la grande inconnue.
C'est-tu drôle qu'à 3-4 ans, je faisais des gaffes à tout bout de champ. Puis à part la minute des gros yeux de papa, j'étais jeune, fait que j'avais le droit de ride en ride en dents de ciment. Un geste raté, c'est ta vie qu'il est. Comme si on avait une répète avant chaque âge de notre vie pour plus se tromper. Tout est devenu important. À chaque décision, je prends mon temps. Comme si le jeu pouvait gaspiller la chandelle. J'ai peur du jour où je serai plus belle. Qu'est-ce que j'ai fait de si navrant? Qui est-ce qui m'en demande autant? Merde à tous les, il faut pas qu'on s'invente. Je prends un risque, puis si je me plante, je dirai blame, je suis crampé. Comme quand on a ta crâne, blame, je suis crampé. Puis ça me fera rire comme dans le temps. Dans ce bordel, avoir l'air folle, même servir de misère. Pour toute ma vie, je m'absous. J'arrête de me donner des coups. Merde, il faut, puis il faut pas qu'on s'invente. Je prends un risque, puis si je me plante.
Youpalaï, une chanson de Geneviève Bilodeau.
Merci beaucoup, Mathieu. On passe à l'actualité qui nous vient des autres communautés francophones canadiennes, en commençant par le métropolitain. L'AFO veut accroître la diversité au sein des organismes franco-ontariens. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, a annoncé le mardi 26 février à Mississauga qu'elle offre un nouveau service dans le cadre du programme « Accroître la diversité » mis en place grâce au financement reçu de la Fondation Trillium de l'Ontario. Le programme « Accroître la diversité » permet à l'AFO d'établir un projet grâce à une subvention de 74 000 $ échelonnée sur 10 mois. Les fonds permettront de créer et de mettre à l'essai des stratégies afin d'augmenter la diversité de représentation au sein des conseils d'administration d'organismes francophones. Dans le but de bâtir des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour améliorer la vie communautaire et aura un impact sur la vie de 1000 personnes. Félicitations à l'AFO pour l'octroi de la subvention de la FTO. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir continuellement la communauté et la culture franco-ontarienne, a déclaré Nina Tangri, députée provinciale de Mississauga-Streetsville. Grâce à ce financement, l'Assemblée peut fournir davantage d'appui aux organismes francophones en renforçant les services au sein de leur équipe. Les projets qui en découlent permettent de mettre en place de nouvelles ressources en vue de bonifier l'offre de services actifs en français au sein du réseau d'organismes francophones de l'Ontario, a déclaré Carole Jolin, présidente de l'AFO. Toujours dans le métropolitain, on s'intéresse à la refonte du système ontarien de santé. Un système de santé renouvelé, interconnecté et durable réduira les soins de santé de couloir en concentrant les ressources sur les besoins des patients. Le mardi 26 février, la vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, a déposé le plan à long terme du gouvernement de l'Ontario pour corriger et renforcer le système de santé public en se concentrant directement sur les besoins des patients et des familles de l'Ontario. La population de l'Ontario mérite un système de soins de santé interconnecté qui donne la priorité à ses besoins, dit la ministre Elliott. Parallèlement, la population de l'Ontario mérite d'avoir l'assurance que ce système est durable et accessible à tous les parents et à leurs familles, sans égard à l'endroit où l'on vit, à son revenu ou au type de soins dont on a besoin. Voici comment le nouveau plan de l'Ontario améliorerait l'accès aux services et le vécu des patients. Premièrement, organisation des fournisseurs de soins de santé afin qu'ils travaillent en équipe coordonnée, axée sur les patients et les besoins locaux particuliers. Les patients passeraient sans accroc d'un fournisseur de soins à un autre, par exemple de l'hôpital au fournisseur de soins à domicile, avec l'historique des antécédents, un dossier de patient et un plan de soins. Deuxièmement, une aide fournie en permanence aux patients, aux familles et aux personnes soignantes pour leur permettre de se retrouver dans le système de santé publique. Troisièmement, intégration de plusieurs organismes provinciaux et programmes provinciaux spécialisés en un seul organisme afin de créer un point central de responsabilisation et de supervision du système de santé. Cela améliorerait les directives cliniques, le soutien offert aux fournisseurs et permettrait d'offrir des soins de meilleure qualité aux patients. Enfin, amélioration de l'accès à des outils numériques sécuritaires, notamment les dossiers de santé en ligne et des options virtuelles en matière de soins pour les patients, une approche du 21e siècle en matière de soins de santé. Dans les pages du Régional, qui est le journal francophone de la région Hamilton-Niagara, une journée de la femme en témoignage et en divertissement. Le Centre communautaire francophone de Cambridge organise depuis plusieurs années une activité annuelle consacrée à la Journée internationale de la femme. Il s'agit chaque fois d'une occasion d'écouter des témoignages parfois drôles, parfois touchants, mais toujours pertinents quant au parcours de certaines femmes de la région. C'était encore le cas le 1er mars dernier. C'est ainsi que Louise Godin, dans son mot de bienvenue, y est allée de quelques commentaires à propos de ses expériences à titre de présidente du centre communautaire, un poste d'autorité qui lui a appris bien des choses et qui lui a permis de relever des défis. Louise Kruithoff, trésorière de l'organisme et une des principales organisatrices de l'activité, a ensuite expliqué que le thème de cette année, accéder à l'égalité, s'inspirait d'un objectif que s'est fixé l'Organisation des Nations Unies pour que l'égalité des sexes soit atteinte partout dans le monde d'ici à 2030. Il reste beaucoup de travail, on peut le constater. Cette égalité se manifeste de manière on ne peut plus tangible dans le monde du travail et c'est pourquoi les discours des femmes invitées à s'exprimer ont illustré une diversité de professions. Annabelle Bouchard fut la première à se confier quant à son parcours à titre de comptable de Montréal à Kitchener et son adaptation à son nouveau milieu anglophone. Louise Chaput, elle aussi originaire du Québec, a de son côté, raconter son cheminement dans le milieu de l'éducation qui l'a conduite aux quatre coins du Canada. Elle aime autant étudier qu'enseigner et c'est pourquoi elle est retournée à l'université où elle a récemment complété un post-doctorat en linguistique et journalisme. On s'en va en Acadie pour vous parler d'Huguette Plourde, une femme d'action, ce que rapporte Acadie Nouvelle. Huguette Plourde est indéniablement une femme d'action, et pas seulement lorsqu'il s'agit de célébrer la Journée internationale des femmes, c'est-à-dire une fois là. Il est difficile, en fait, de trouver au Madawaska une personne qui a autant à cœur le sort des femmes, des familles, de l'éducation et de la culture acadienne. Ce qui ne l'empêche quand même pas de souligner cette journée annuelle avec d'autres femmes de la région de Saint-Léonard, en organisant depuis plusieurs années un banquet qui célèbre la gent féminine dans toute sa splendeur et sa richesse. Un banquet qui fait d'ailleurs toujours salle comble. L'Acadie Nouvelle est allée à la rencontre d'Huguette Plourde alors qu'elle plaçait la touche finale à la préparation de cette soirée de célébration qui se tiendra ce vendredi soir à l'église de Saint-Léonard. C'est la journée de l'année où la femme a enfin une forme de reconnaissance pour tout ce qu'elle accomplit comme mission et pour souligner tous ses attributs incroyables qui n'ont jamais été reconnus, raconte d'entrée de jeu, en entrevue, la septuagénaire. La journée du 8 mars est également pour elle une occasion d'approfondir ses connaissances sur l'histoire des femmes à travers les époques. Les femmes soufflent à l'oreille des autres des idées de création et de transformation. Elles ont inventé bien des choses et devaient autrefois emprunter des noms d'hommes ou celui de leur mari pour pouvoir le faire et être reconnues. La bière, par exemple, a été inventée il y a longtemps par des femmes en Mésopotamie, raconte-t-elle, en s'offrant une incursion dans l'histoire lointaine de l'humanité. Disons-le, la femme était déesse avant que l'homme ne soit Dieu. L'ancienne mairesse de Saint-Léonard aura tôt fait, lors de la conversation, de revenir au temps présent et de faire montre avec aplomb d'un modernisme qui pourrait ébranler les colonnes de l'Église, même s'il s'agit de l'endroit qui lui tient beaucoup à cœur et qu'elle vénère comme toute bonne paroissienne. Je dirais que ça presse et que je n'hésiterai absolument pas à assister à une messe célébrée dans une église par une femme et je serais très à l'aise avec ça. Tout comme j'ai applaudi le mouvement de libération de la femme alors que certaines d'entre elles ont osé se lever, affirme Huguette Plourde sans hésiter. À Whitehorse, l'aurore boréale se penche sur une politique formelle maintenant de la ville sur l'allaitement en public. Marine Dumaine. La ville de Whitehorse a pris la décision d'officialiser sa politique en ce qui concerne l'allaitement dans les lieux publics. Cette décision a été prise à la suite d'un incident lors duquel un membre du personnel de la piscine du Centre des Jeux du Canada aurait demandé à une mère de sortir du bassin pour allaiter son nourrisson. Une politique concernant l'allaitement dans les lieux publics a été proposée au conseil municipal de Whitehorse le 4 février dernier. Cette décision fait suite à une plainte déposée par une mère à qui l'on a demandé de sortir du bassin. Cette demande se basait sur un règlement officiel selon lequel il est interdit de manger et de boire dans la piscine en raison du risque de contamination que peuvent représenter les aliments, y inclus le lait maternel. La ville a depuis remis les pendules à l'heure en soulignant le fait qu'elle reconnaît l'importance de créer un environnement favorable à la famille pour ses citoyens, le personnel et les visiteurs, et indique sa volonté de soutenir les personnes qui allaitent et leur droit d'allaiter sans être dérangées dans les lieux publics de la ville. Une courte pause et on se retrouve de l'autre côté pour aborder la culture.
Thank you.
Louise Forestier qui chantait bien sûr une chanson de Robert Charlebois, California.
Et on aborde immédiatement la scène culturelle, là où aussi le 8 mars se fait sentir, ce que nous signale Iris Gagnon-Paradis dans la presse, le festival Filministe de retour. Fort du succès de sa première édition, le festival Filministe est de retour dès vendredi jusqu'au 11 mars avec une programmation entièrement consacrée aux femmes, personnes trans, non-binaires, racisées, autochtones, queer, lesbiennes ou vivant toute forme d'oppression, avec des sujets aussi diversifiés que l'écoféminisme, la fluidité des genres, la migration ou le désir adolescent. Le festival s'ouvrira vendredi soir, en cette Journée internationale de la femme, au Théâtre Plaza, avec la projection en première québécoise de Grit, États-Unis, Indonésie, qui suit la transformation de Diane, de jeune fille à écologiste déterminée. Samedi, aussi en première québécoise, c'est le film suédois Drom Vidare, de Beyond Dreams, en anglais, une ode à la liberté et à l'amitié qui sera projetée à Los Gang Plaza où se déroule la majorité des activités. En tout, 28 courts-métrages et 4 longs-métrages y sont à découvrir sans compter les autres activités. On ne la lit pas souvent à cette antenne, je fais une exception aujourd'hui pour Sophie Durocher du Journal de Montréal qui signe sa chronique « Bonjour, hi, bye bye le français ». Je suis découragé, abattu, déprimé, dégoûté, affligé, démoralisé, assommé, atterré. Je viens de regarder le documentaire « I speak français » qui sera diffusé le 20 mars à Télé-Québec et je suis maintenant convaincu que les milléniaux québécois trouvent l'anglais tellement « chill » que le Québec sera une province bilingue comme le Nouveau-Brunswick quand je serai grand-mère. La journaliste Karina Marceau a commandé un sondage pour connaître l'opinion que les jeunes de 18-24 ans ont du français. Ils sont fiers de parler la langue, mais la trouvent compliquée pour rien et ne voient pas où est le problème de parler français. Mais la donnée qui m'a donné froid dans le dos est la suivante. 60% des jeunes Québécois sont en faveur de l'assouplissement de la loi 101 pour permettre d'avoir une éducation en anglais dès le primaire. Attendez, ce chiffre monte à 91% auprès des jeunes de la ville de Québec. On touche ici au paradoxe québécois. À force de protéger le français, on a fini par faire croire à nos plus jeunes que la bataille était gagnée et que plus rien ne menaçait la langue de Molière au Québec. Que va-t-il arriver, d'après vous, si les enfants des milléniaux ont accès à l'école en anglais? Toute une génération va envoyer sa progéniture s'éduquer dans la langue du commerce et on va garder le français comme une langue qu'on parle à la maison, un peu folklorique pour parler à grand-maman et grand-papa quand on va leur rendre visite. Comme le dit une jeune fille interviewée dans le documentaire, « Je regarde la télé en anglais, je regarde des films en anglais et je n'écoute que de la musique anglaise. Alors pourquoi s'emmerder à apprendre les règles du participe passé? » Je ne sais pas ce qui est le plus décourageant du documentaire. Entendre la députée de Québec solidaire Catherine Dorion, toujours prête à mettre une tuque sur la qualité du français, souhaiter qu'on foute la paix aux jeunes en arrêtant de leur dire qu'ils parlent mal, ou voir ces deux jeunes francophones entrepreneurs du web à Québec qui expliquent le plus sérieusement du monde qu'elles se parlent le plus souvent en anglais. C'est tellement catchy. Et il me semble que si l'on veut que cette cause-là ne soit pas perdue, il va falloir que les plus vieux prêchent par l'exemple et donnent un sérieux coup de barre. Pourquoi les politiciens parlent-ils si mal? Pourquoi les publicitaires permettent-ils que des fautes de syntaxe, des erreurs grossières, des expressions fautives se glissent dans des messages qu'on entend à répétition? Comment voulez-vous que des milléniaux soignent leur français quand les influenceurs parlent de leur team ou que les vedettes parlent de leur best? L'autre jour, j'ai même entendu une chroniqueuse culturelle à Radio-Canada parler de donner du « love » à un artiste. Et l'animateur n'a pas bronché et ne l'a pas reprise. Misère, du « love » pour l'amour du bon Dieu. Je comprends que certains mots anglais intraduisibles soient utilisés, mais depuis quand les mots « amour »,« équipe »,« meilleur » sont-ils devenus ringards? Un artiste un peu particulier que celui auquel s'est intéressé Dominique Lelièvre dans le Journal de Montréal, ce Québécois gagne sa vie en peignant des voitures. Et là, on va s'entendre pas dans un atelier de carrosserie, non, non, sur des toiles. L'artiste québécois Alain Lévesque, qui expose cette semaine au Salon de l'Auto de Québec, a réalisé ce qu'il croyait impensable étant jeune, gagner sa vie en peignant des voitures. C'est à Londres, il y a 30 ans, qu'il a découvert ce monde parallèle, celui de l'art automobile dont il ignorait tout à l'époque. Avec un ami, il est alors entré pour la première fois dans une galerie qui exposait ce type de toile. On n'en revenait pas. On ne savait même pas que ça existait. Depuis, l'artiste originaire de l'Abitibi s'est construit une renommée internationale en peignant sur des tableaux et des affiches des véhicules d'exception. Son style, inspiré de courants artistiques du début du 20e siècle, comme le constructivisme ou le cubisme, a attiré l'attention des plus grands magazines du monde automobile. Qui aurait dit qu'à 62 ans, je gagnerais encore ma vie en dessinant des voitures alors que c'est tout ce que je faisais quand j'avais 10 ans, lance celui qui a réalisé les affiches d'importants rendez-vous de collectionneurs comme les réputées ventes aux enchères Barrett Jackson. Des vedettes dont Jay Leno, Jerry Seinfeld et Nick Mason de Pink Floyd, tous amateurs d'art automobile, se sont également procurés ces illustrations. Littérature, Chantal Guy de la Presse aborde le festival Dans ta tête, le cœur battant de la vie littéraire. Depuis 2013, le festival Dans ta tête nous fait découvrir ce qu'on lira demain, tout en comblant un vide au cœur de l'hiver en donnant la parole aux passionnés de la poésie, d'où qu'ils viennent. Entrevue avec sa créatrice Catherine Cormier-Larose et son fidèle collaborateur Mathieu Arsenault. Le festival Dans ta tête est tenu à bout de bras par la poète Catherine Cormier-Larose, directrice des productions Areux, depuis plusieurs années. Née en marge du Festival international de la littérature, le FIL, il occupe aujourd'hui un peu la place laissée vacante en hiver par le festival Voix d'Amérique de Dekim, qui en a créé un autre, Phénoména, dans un tout autre esprit et dans la case automnale. Comme le FVA, Dans ta tête se tient dans le circuit des petites salles cool de Montréal et rassemble ce monde très dispersé qui participe d'une façon ou d'une autre à la vie littéraire. La vraie vie, pas celle des institutions. Les débutants qui n'ont pas encore publié y côtoient parfois sur scène des prix du gouverneur général. C'est devenu un festival indépendant, basé sur la communauté, explique Catherine Cormier-Larose. Originaire de la Mauricie, c'est là qu'elle a rencontré un fidèle collaborateur, Mathieu Arsenault, originaire de Rimouski, l'auteur de « La vie littéraire » et gardien de la mémoire de la regrettée Vicky Gendreau. Selon eux, « Dans ta tête » n'est pas tant un festival d'avant-garde qu'un festival branché sur ce qui se fait maintenant. C'est bien souvent là qu'on découvre, dans leurs premiers pas incertains, les poètes et écrivains dont tout le monde va parler plus tard. Catherine Cormier-Larose ne se réclame pas de l'underground, car son but premier est vraiment de prouver que le monde littéraire n'est pas un cercle fermé réservé aux initiés. Au contraire, Mathieu Arsenault se souvient d'une soirée mémorable où le poète Nicolas Giguère, que personne n'avait encore vu en action, a décidé de lire ce qui allait devenir plus tard son recueil de poésie « Que ». J'ai senti qu'on était à la pointe de ce qui s'en venait. C'était LGBTQ et assez crunchy, mais la foule était tellement prête à ça. Le monde criait et on s'est dit « Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe ?» Corriger les injustices, fouiller les angles morts, faire se rencontrer les gens et triper pour vrai sont les raisons d'être de « Dans ta tête ». Phénomène en résurgence à Montréal qui nous rappelle un peu, qui me rappelle à moi, le temps où j'étais jeune, les cinémas de quartier. L'audace des cinémas de quartier, un texte d'Éric Clément. Ouverture récente du cinéma moderne et du cinéma du musée. Toujours plus de films d'auteurs au Centre Fille, au Théâtre Outremont, au Broubien ou au Parc. Longévité étonnante du cinéma Dollar et de Station Vue, le cinéma de quartier et les petites salles œuvrent encore à la diversité des genres, malgré les soubresauts du 7e art et des revenus souvent limités. Le point le plus positif avec ces nouveaux petits cinémas, c'est qu'on est en train d'expérimenter, dit Renaud Legout, professeur agrégé en marketing à HEC Montréal. J'aime cette audace dans le paysage montréalais. Une audace qui trouve son public. Ayant ouvert ses portes le 17 septembre dans le Mile End, le cinéma moderne avec ses 54 places connaît depuis ses débuts un taux de remplissage moyen de 72 %. Il est vrai que Roma, dans la course aux Oscars, a bien aidé cette OBNL fondée par Roxane Saillé, ex-directrice générale des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, et Alexandre Domingue, patron de la maison de post-production Postmoderne. En janvier, le taux d'occupation a même été de 87 %. Cela dit, le cinéma moderne veut durer et joue donc la diversité et la qualité pour sortir des cinéphiles de leur salon. Les gens apprécient la qualité de nos installations, dit Roxane Saillé. Ce n'est pas la même chose que de voir un film à la maison. Et on est la seule salle de cinéma de Montréal où on peut prendre sa boisson alcoolisée pendant le film. Ouvert depuis septembre au cœur du Musée des beaux-arts de Montréal, à l'initiative de sa directrice générale Nathalie Bondil, le cinéma du musée ne connaît pas un aussi bon taux de remplissage, mais la salle de 291 sièges. Jean-François Lamarche, directeur général adjoint du cinéma du musée et de ses deux grands frères, le Beaubien et le Parc, pense que le nouveau cinéma va trouver son rythme de croisière. Il permet en tout cas de soulager les salles du Beaubien et du Parc, très occupées, dit-il, et il comble les distributeurs de films qui regrettent le manque d'écran pour le cinéma non hollywoodien. Alors, on le voit dans le merveilleux monde du cinéma, il n'y a pas que les multiplexes géants et les pop-corn à 30 $ Il y a des petites salles de quartier, et même qui pratiquent des prix, ça va, on en trouve à 1 $ Écoutez, il y a des films à 1 $ ça vaut la peine de le découvrir.
Yeah.
I thought I'd miss you. C'était Roxane Potvin.
Alors, j'introduis une révolution dans cette émission, puisque vous le savez, le dernier segment est généralement réservé à des sujets plus ludiques, plus légers. J'allais vous parler du poids de la voix, de la masse totale de la Voie lactée. J'allais vous parler du lapin de Pâques en chocolat IKEA à monter soi-même. Riez pas, ça existe, ça s'appelle Varkansla. Et j'allais vous parler même de l'appauvrissement de la culture des groupes de singes lorsqu'ils sont fréquentés par des humains. Et à cause de ça, j'allais laisser de côté l'extraordinaire texte de José Blanchette. Eh bien non, voilà, je décide que je vous lis la chronique de José Blanchette. Femmes au sommet. Elles n'ont pas froid aux yeux, même si leurs cils se couvrent de givre. Elles sont d'une autre trempe, le genre de filles qui suivent leur instinct comme on pourchasse sa bonne étoile, ou le guide. Sauf que le guide, ce sont elles, en avant du troupeau, responsables de tous et de tout, ouvrant la voie. Le genre de filles qui prévoient des pansements et de la vaseline pour les engelures et sur le visage, mais qui n'ont pas beaucoup abusé du fond de teint et de la crème antiride. Marie-Josée Talbot et Lucie Dumont sont toutes deux guides pour l'entreprise de plein air Caravanier. Quant à Lisanne Bussière, elle est médecin et secouriste à Whistler, en plus d'avoir été marathonienne olympique, un détail, et pris part 4 fois à la patrouille des glaciers en Suisse, une compétition mythique en haute montagne. Je les ai rencontrés la semaine dernière au Mont-Albert, en Gaspésie, dans le cadre de TDLG, la traversée de la Gaspésie en ski et raquette. À 5000 mètres, elles sont capables de porter 30 kilos sur leurs épaules sans forcer. Elles composent avec attitude et altitude. On a vécu tantôt au Chili, en Patagonie ou au Népal, dans des conditions rudimentaires. Elles ont aussi appris à voyager léger. Marie-Josée a même fini par s'acheter une petite baraque en ruine au Groenland, dans un endroit qu'apprécierait Justin Trudeau cette semaine. Plus reculé que ça, tu lis du Henry David Thoreau et tu cesses de payer tes impôts. « Je ne me voyais pas, Saint-Donat », résume cette résidente du Bic, amie des vents et des projets dits impossibles. Marie-Josée et Lucie endossent d'immenses responsabilités, dirigent des treks dans une 20aine de pays avec des équipes de 60 porteurs pour 10 clients, composées à 90% d'hommes. Quant à Lisanne, elle sauve des vies et risque la sienne dans des avalanches malgré 3 ados dont elle a la charge entière. Son conjoint est décédé dans un dramatique accident d'automobile il y a 4 ans, un jalon marquant qui ne l'a pas arrêté. Ça change ma gestion du risque, c'est certain. Ce sont des femmes comme ça, défiant la peur à chaque pas pour gravir des sommets intérieurs. L'explorateur Nicolas Bouvier écrivait dans « L'usage du monde » Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Femmes des cimes, elles se confondent constamment à une nature réputée hostile, mais n'aiment rien autant que l'essence de l'adversité, leur carburant et leur moteur. En montagne, t'es petit, tu as besoin des autres, résume Marie-Josée. Oui, il y a de l'entraide, ce n'est pas compétitif, seconde Lisanne. Lucie, elle, a eu sa première révélation en larmes ici même, au Mont-Albert, il y a 30 ans. Elle est tout naturellement passée de professeur d'anglais qui coordonnait la couleur de ses espadrilles de tennis avec celle de sa casquette à guide. La montagne t'enseigne un pas à la fois. Elle te donne de la force et de la sagesse. Les épreuves sont des cadeaux déguisés. Le « wow » vient de avec la difficulté, raconte celle qui gravit une 20aine de sommets par année et ne compte plus les 5000 ou 6000 mètres. À force de fréquenter le Népal, le Manaslu, Lucie s'est faite un peu bouddhiste, au pays des jambons. Et elle voue une admiration sans borne à l'aventurière Alexandra David-Neel, qui a franchi ces montagnes himalayennes au début du siècle dernier. Malgré le fait qu'elle soit une femme, elle se sent respectée par ses équipes chargées de testostérone. On doit établir notre crédibilité auprès du groupe dès le départ, mais aujourd'hui l'expérience m'aide. « On les impressionne », relate la solide grimpeuse de 60 ans. Cela dit, il y a de plus en plus de jeunes femmes chez les gens de montagne et elles prennent leur place. Marie-Josée aime travailler dans ce milieu d'hommes, mais insiste pour avoir des femmes dans son équipe locale, au Maroc comme au Chili, pour accéder à leur point de vue, les connaître. Mais parfois, ces femmes ont 8 enfants et ce n'est pas possible pour elles de partir. Cela dit, une blonde aux yeux bleus qui dit quoi faire à 30 Marocains, ce n'est pas naturel. « Je dors et je mange avec eux. On y retourne souvent. Ça devient de la famille et ils admirent notre force de caractère. » Marie-Josée, 40 ans, a déjà eu à répondre à des questions comme « C'est qui notre guide ?» Oh, qui c'est qui va porter ton sac à toi? C'est certain que pour des messieurs de 60 ans, j'ai l'air d'une floune. Ils me disent que je ne sais pas de quoi je parle quand je les préviens que ça va être difficile. Lisanne s'est spécialisée dans un créneau et fait partie des secouristes qui marchent sur des glaciers, possèdent des techniques de corde pour atteindre les crevasses ou les parois. On fait sa place. Les hommes respectent ça, mais on doute plus qu'eux. Les gars vont douter par l'arrogance, constate Marie-Josée. Elle ajoute qu'elle fait popper le champagne lorsqu'une fille s'inscrit dans un trek en terre de Baffin où il fait moins 40 degrés Celsius au soleil, un endroit où elle est allée 4 fois. C'est dur. Une femme va douter et un gars va présumer qu'il va performer. Nous, les femmes, on a capté le modèle du « je ne suis pas capable ». On a peur de se tromper. J'ai fini par leur demander si elles étaient féministes. Aucune n'a répondu par l'affirmative. Une féministe, pour moi, c'est quelqu'un qui revendique l'égalité. Je me sens au même diapason qu'un homme, avance Lucie. Marie-Josée opine. Ce sont les gars qui m'encouragent à me dépasser, à franchir mes limites. Lisanne renchérit. Je fais ce que je veux, ce dont j'ai envie. Et en fin de compte, elles font partie d'une catégorie d'inclassables humaines qui carburent à l'oxygène et aux horizons à atteindre. On voudrait leur emboîter le pas, une inspiration à la fois. Elisa Cloutier du Journal de Montréal, elle, nous parle d'une offensive contre les pimps sur Instagram. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, 7 personnalités féminines populaires auprès des jeunes filles feront campagne sur Instagram afin de les sensibiliser aux techniques de recrutement des proxénètes. La campagne dièse « Laisse-toi pas acheter » lancée par le Y des femmes de Montréal mettra en vedette Ludivine Redding, Juliane Côté et Catherine Brunet, la youtubeuse Gloria Bella, l'ancienne participante d'Occupation double Noémie Banz, la joueuse de tennis Françoise Abanda, ainsi que l'auteur Sarah Maud Beauchesne. Et voilà qui conclut cette édition du 8 mars 2019 du Quotidien des quotidiens. De ma part, de celle de Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux, nous vous remercions d'avoir été là. Et mesdames, nous vous souhaitons un très bon 8 mars.